Bonjour, merci d'écouter le grand face-à-face avec Natacha Polony et Gilles Finkelstein. Dans un instant, le duel pour revenir sur les temps forts de la semaine. Et puis en débat ce samedi, un mot, sept lettres, R-E-S-P-E-C-T. Respect avec un point d'exclamation et comme dans la chanson d'Aretha Franklin, un cri de ralliement, une revendication et peut-être plus encore la pierre angulaire d'une éthique de la reconnaissance. C'est ce qui est au cœur d'un essai paru récemment aux éditions des Équateurs, un manifeste qui fait du respect le point de départ et le fondement de toute politique authentique. C'est ce combat que mène la docteure en sciences politiques Agathe Cagé pour réconcilier notre société avec elle-même, surmonter ses lignes de fracture, ses très nombreuses discriminations. Elle viendra nous expliquer pourquoi il faudrait tout reconstruire en partant du respect. Elle qui est engagée à gauche, pourquoi le respect plutôt que la justice ou l'égalité? On en débattra dans une vingtaine de minutes donc avec Agathe Cagé. Mais d'abord, le duel.
France Inter, le grand face-à-face.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et vous êtes positif, vous êtes optimiste, vous pensez au 15 mai, vous pensez à la libération. Je vous pose la question régulièrement, mais Gilles, je vous vois sourire, heureux.
Heureux. Heureux, non, personne n'est heureux.
Personne n'est heureux en ce moment.
Non, personne n'est heureux. Personne peut être heureux à titre individuel, mais personne n'est heureux de la situation. Et disons, dans l'espoir que le 15 mai sera vraiment le 15 mai.
Le 15 mai, vous l'avez inscrit en lettres rouges dans votre agenda, Natacha ?
Écoutez, nous avons été habitués depuis un an à savoir que ce genre de date fatidique, en fait, est extrêmement flottant. C'est l'horizon, vous savez, c'est la ligne qui recule au fur et à mesure qu'on avance. Cette fois-ci, nous promettons, c'est la bonne, parce que la stratégie vaccinale va permettre d'amplifier réellement les choses et donc peut-être enfin de se mettre à respirer. Restons prudents malgré tout et regardons concrètement comment se passent les choses.
Moi, je veux y croire. Et justement, Emmanuel Macron, le président de la République, mercredi soir, s'exprimait solennellement et il annonçait donc cette date à venir.
Les efforts d'avril, d'une part, et le déploiement de la vaccination, d'autre part, c'est cette tenaille qui va nous permettre de contenir progressivement ce nouveau virus. Cette tenaille qui va nous permettre, à partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays. À retrouver cette culture qui nous a tant manqué, à retrouver les lieux de rencontre, les commerces, à retrouver cet art de vivre à la française que sont les restaurants, les cafés que nous aimons tant.
Voilà, c'était donc le président de la République qui était regardé par 30 millions de Français. C'est absolument considérable, autant dire que sa parole était très attendue. Gilles, qu'en avez-vous retenu ?
Écoutez, après avoir vu le président de la République et écouté le président de la République, comme 30 millions de Français, je l'ai relu. Et retrouvant mes amours anciennes de plumes, je trouve que l'analyse de la rhétorique de ce discours est intéressante parce qu'il y a à la fois beaucoup de choses qui sont des choses classiques dans des discours politiques. Vous essayez de créer un lien avec votre auditoire et donc c'est une alternance entre le je et le nous. Vous rendez hommage aux Français, vous remerciez un certain nombre de catégories. Vous essayez, surtout quand vous annoncez des choses difficiles, de tracer des perspectives après la pluie, le beau temps. C'est cette fameuse date du 15 mai que vous avez évoquée. Vous cherchez des images qui permettent d'être retenu, et c'est là aussi celle qui était dans cet extrait, celle de la tenaille. Vous inventez parfois des ennemis. Ainsi, lorsque le président de la République parle de ces militants de l'attestation contre lesquels il a résisté et que, sans doute, un manque d'attention, mais que je n'avais pas vu, dont je n'avais pas vu l'activité. Donc ça, ce sont des choses qui sont des choses classiques. Et ce que je trouvais plus intéressant, c'était ce qu'était sa stratégie de défense.
Oui.
Parce que c'est toujours un exercice difficile de reconnaître des erreurs pour un responsable politique, et c'est encore plus difficile dans cette période, lorsque Angela Merkel, de son côté, l'avait fait de manière très claire, et que, à l'inverse, Emmanuel Macron avait dit qu'on avait, dans l'ensemble, bien fait les choses. Et je trouvais que là, on avait vraiment du Emmanuel Macron tel qu'en lui-même, c'est-à-dire qu'il avait assumé autant qu'il est possible. On a bien fait le 29 janvier en ne fermant pas. On a des premiers effets des mesures qui ont été annoncées dans les 16 départements. On n'a jamais perdu le contrôle. On a appris, on s'est amélioré. Et il y a quand même des concessions à minima. Les rendez-vous qui ont tardé pour les personnes âgées, mais maintenant les mesures ont été prises. Le retard qui est reconnu, mais qui a été, mais évidemment les choses ont été corrigées. Et ce qui était d'un point de vue rhétorique le plus intéressant, les retards de vaccination de l'Europe sur lesquels, dit-il, nous pourrons revenir, mais comme ce n'était pas une interview mais une allocution, eh bien, nous n'y sommes pas revenus.
Natacha Polony.
J'ajouterais à tout ce que vient d'analyser Gilles, le fait que tout le début du discours est centré sur un point essentiel, démontrer que les médecins qui exigeaient le confinement immédiat n'avaient pas forcément raison. Et il y avait véritablement quelque chose de frappant dans ce face-à-face d'Emmanuel Macron avec ceux parmi les médecins qui étaient les plus, comment dire, les plus sévères sur le choix qui avait été fait en janvier.
Oui.
Et de fait, c'est logique parce que c'est un débat crucial dans le sens où on a entendu cette musique ces derniers jours qui consistait à dire puisqu'Emmanuel Macron est obligé de fermer les écoles, c'est qu'il aurait fallu le faire avant. Or, ce n'est pas parce qu'on le fait maintenant qu'il fallait le faire avant. Et je pense que toute la question première était de savoir comment équilibrer les choses. Par exemple, là, sur la fermeture des écoles, de nouveau, on est revenu sur un débat sur la question de savoir si l'enseignement à distance peut être efficace, quels seront les décrochages,
oui.
Ce qui est une question majeure. Mais vous avez immédiatement des gens qui disent bah, « Enfin, regardez, c'est pour 3 jours, donc pourquoi s'affoler pour ça ?»
Oui, 3 semaines. Alors,
3 jours d'enseignement à distance,
oui.
Puisque ensuite 2 semaines de vacances. Sauf que justement, ce ne sont que 3 jours parce que Emmanuel Macron a choisi de ne le faire que maintenant. Et je pense que les...
Et ça, vous approuvez?
Ça, j'approuve. J'approuve parce que je pense sincèrement que les décrochages de nombreux enfants, en particulier les plus défavorisés, ou en tout cas, disons, des décrochages dans tous les milieux sociaux, mais ce sont les enfants de milieux défavorisés qui auront le plus de mal à s'en relever, c'est quelque chose d'essentiel et qui ne peut être négligé parce que s'il y a des vies en jeu, celles-là le sont réellement.
Oui.
Mais j'ajoute un point. La stratégie d'Emmanuel Macron ne tient que s'il a des moyens derrière, d'où toute la partie du discours qui touche la stratégie vaccinale. Quand on écoute, même en étant extrêmement, indulgent avec le gouvernement et avec l'ensemble du processus de stratégie vaccinale, on ne peut pas s'empêcher d'être effondré à l'idée qu'il en soit encore à dire qu'il faut pousser les plus de 75 ans à se faire vacciner. C'est-à-dire quel retard terrible. Même si l'on se dit que de nombreuses doses vont arriver dans les jours qui viennent, Gilles a souligné qu'il faudrait revenir, enfin que le président dit qu'il faudrait revenir sur les erreurs de l'Europe. En effet, on attend toujours. Et dernier point, il y a des outils. Ces outils sont nécessaires. Là, actuellement, par exemple, on est en train d'ergoter au ministère de la Santé pour savoir si on doit autoriser ou non les autotests. Il me semble que de se dire qu'au bout d'un an et au bout d'un troisième confinement, qui n'est pas vraiment un confinement, etc., en être encore à se demander si l'autotest, les Français sauront bien l'utiliser, et du coup, est-ce que ça va pas être utilisé à mauvais escient ? Pardon, mais je trouve ça effarant.
Il devrait être disponible en pharmacie.
Voilà, mais des pays voisins les utilisent déjà et entendre à nouveau l'argument de la bêtise des gens qui ne sauront pas s'en servir me semble étonnant dans la mesure où justement tout le choix d'Emmanuel Macron de ne pas reconfiner au mois de janvier s'appuyait sur l'idée qu'il fallait utiliser la responsabilité des individus, les outils qui sont à notre portée pour essayer de limiter la circulation du virus.
Gilles.
Oui, Natacha Polony soulignait cette espèce de face-à-face entre Emmanuel Macron et les médecins qui apparaissait au travers de cette allocution. La question de savoir si c'était une erreur de ne pas confiner plus tôt et de ne pas confiner en janvier est une question qui est indémontrable. On avait déjà eu exactement le même débat à la fin du mois de janvier avec Natacha Polony. Nous étions plutôt en désaccord. Le président de la République dit que là où il y a eu un confinement plus tôt, il y a eu des reconfinements. Même si, quand on regarde par exemple l'Allemagne, on voit que le taux d'incidence est beaucoup, beaucoup plus faible en Allemagne qu'il ne l'est en France. Ce qui me semble malgré tout, c'est que si on avait pris des mesures plus tôt, elles auraient sans doute été mieux acceptées et sans doute mieux appliquées si on avait fait pendant les vacances de février ce que l'on allait faire pendant les vacances du mois, les vacances de Pâques. Ça aurait sans doute été plus facile, et que si on avait fait baisser le nombre de contaminations, eh bien, on serait, la courbe ne serait pas au même niveau. Bon, mais c'est indémontrable. En revanche, ce qui, je crois, est indiscutable, c'est que c'est un échec au sens où le président arrive là où il ne voulait pas aller, c'est-à-dire dans des mesures générales. Et puis, je termine par là, une inquiétude quand même sur l'application par les Français. C'était très frappant lorsque vous regardiez les enquêtes qui ont été faites après l'allocution du président de la République. Dans l'ensemble, les mesures sont approuvées. Les Français, dans le même temps, ne font pas confiance au gouvernement pour gérer la crise sanitaire. Ils pensent que les mesures seront inefficaces, et la moitié d'entre eux seulement disent qu'ils veulent les appliquer complètement.
Comment expliquer ce paradoxe ?
Inquiétude sur les Français, et inquiétude, et c'est l'inquiétude peut-être la plus importante, qui est celle sur la mise en œuvre, encore une fois, des mesures par l'État, et notamment de ces 3000 lits de réanimation supplémentaires dont on se demande pourquoi ce n'était pas plus tôt et dont on se demande si on va réussir à le faire cette fois.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Présider et gouverner, ce sont deux choses très différentes. Quand on gouverne, on prend chaque jour un très grand nombre de décisions. Et on espère que de cette multitude de décisions va s'extraire, ou en tout cas va se révéler, une forme de cohérence dans l'action publique. Parce que c'est cette cohérence qui garantit l'efficacité. Alors que présider, ça exige au contraire de tracer une ligne très claire et de vérifier que toutes les décisions qui sont prises par ailleurs correspondent à cette ligne très claire.
Vous avez évidemment reconnu la voix de l'ancien Premier ministre Édouard Philippe qui s'exprimait sur le site du magazine Le Point mercredi dernier. Il est d'ailleurs en couverture de ce magazine avec cette citation « J'aime être aux manettes », un grand entretien et des extraits de son livre « Impressions et lignes claires » coécrit avec son ami et conseiller Gilles Boyer, eurodéputé. Dans ce récit, on a l'impression que l'ancien Premier ministre raconte beaucoup de choses, mais qu'il prend malgré tout plaisir à brouiller les pistes, Natacha, puisque la question que rêvent de lui poser tous les journalistes, en tout cas d'obtenir une réponse claire, un oui ou non, c'est sera-t-il candidat à l'élection présidentielle l'année prochaine ?
Oui, je pense que votre question résume un élément, c'est-à-dire que la position, j'allais dire la posture d'Édouard Philippe dans cette interview tient beaucoup à l'attente des journalistes, c'est-à-dire que c'est un jeu à deux. Et je suis assez frappée de cette tendance journalistique récurrente qui consiste à attendre l'homme providentiel et à parfois chercher à le susciter. C'est-à-dire que, et on sent bien d'ailleurs qu'il y a un flou à droite, puisqu'on voit bien les Unes du Point, deux unes consécutives, l'une sur Xavier Bertrand, l'autre sur Édouard Philippe, qui à chaque fois dénote le fait que les journalistes se demandent et si c'était lui le bon, est-ce que ça va marcher et est-ce que ça ne pourrait pas être un espace politique, à ceci près que la question n'est pas posée en termes d'espace politique mais en termes de personne. Et il est très intéressant de voir que Le Point publie un sondage assez poussé à côté de l'interview d'Édouard Philippe et que dans ce sondage on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'en fait il n'y a pas d'espace politique. Édouard Philippe est extrêmement populaire, mais il l'est essentiellement auprès des électeurs d'Emmanuel Macron et des électeurs de droite, ce qui, pour partie d'ailleurs, se confond largement. Et que donc, il ne peut avoir d'espace que si Emmanuel Macron ne se présente pas. Il serait très étonnant de le voir se lancer dans un duel, et il y aurait quelque chose d'ailleurs de très contre-productif. Donc on ne comprend pas très bien à quoi sert cette espèce de dévoilement, c'est véritablement au sens de danse des voiles, oui. Qui en fait ne fait qu'entretenir une forme de mythe, peut-être pour plus tard. C'est de la part d'Édouard Philippe, visiblement une assurance pour l'avenir, mais pour le reste, est-ce que ça apporte beaucoup au débat politique ? Je ne sais pas.
En tout cas, il y a eu donc la publication de ce livre, ce numéro quasiment spécial du Point, où il est en majesté, mais Laurence Bloch, notre patronne aussi, est en majesté dans le Point, avec un papier beaucoup plus objectif, puisque ça, c'était mérité. Voilà, j'ai fait mon faillot, mais en l'occurrence, Gilles Finkelstein. Vous avez lu évidemment Le Point. Édouard Philippe sera demain aux 20h de France 2. Est-ce que vous partagez l'avis de Natacha, c'est-à-dire qu'on fabrique, l'homme providentiel avec cette question pourquoi pas lui ou si c'était lui?
Édouard Philippe est sans doute la seule personnalité qui est émergée depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et qui est émergée comme un possible présidentiable. Donc ça justifie qu'on s'intéresse à ce qu'il fait. Je vais reprendre l'image du voile qu'a utilisé, ou des voiles qu'a utilisé Natacha. Je crois qu'il y a un voile qui a assombri, sans qu'on s'en aperçoive nécessairement, les relations entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron. Du côté d'Édouard Philippe, il a conçu son éviction comme une injustice. Il a eu le sentiment que c'était lui qui tenait la Maison France avec un président qui était souvent imprévisible. Et il a été victime d'un long supplice chinois avant d'être renvoyé. Mais du côté d'Emmanuel Macron, il y a eu aussi sans doute un sentiment d'injustice devant la popularité d'Édouard Philippe, qu'il considérait comme injustifié au sens où beaucoup d'erreurs du quinquennat était redevable à Édouard Philippe, qui était trop rigide avec les 80 km/h, trop idéologique avec les retraites, trop prudent au moment du déconfinement, et pis encore, qui a construit sa popularité pendant la crise sanitaire, d'une certaine manière, contre Emmanuel Macron. Donc, tout ça s'est terminé avec une relation qui était bonne et avec ce voile. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Édouard Philippe a un sentiment de liberté. Et on le voit dans la formule que vous avez passée, quand il dit gouverner et présider.
Présider et gouverner, ce sont deux choses différentes. Présider exige de tracer une ligne claire. C'est une critique en creux d'Emmanuel Macron?
C'est une critique en creux de l'exercice de sa fonction par Emmanuel Macron, qui très souvent est allé sur le terrain du Premier ministre, c'est-à-dire sur des décisions quotidiennes et pas seulement sur ses lignes claires. Donc, il a un sentiment de liberté. Mais en même temps, quand vous disiez on a le sentiment qu'il brouille les pistes, ou ce que disait Natacha, le problème c'est que c'est une liberté qui est entravée. C'est la première fois depuis très très longtemps qu'un Premier ministre est remercié pendant le premier mandat du président, alors même qu'il est populaire, et aujourd'hui c'est une espèce de présidentiable sans présidentiel. Soit il est dans une stratégie de substitution à Emmanuel Macron, c'est-à-dire de faire à Emmanuel Macron ce que Emmanuel Macron a fait à François Hollande, et il ne semble pas que ce soit son tempérament.
Oui.
Soit il est dans la continuation d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire d'une certaine manière d'être le Georges Pompidou de Charles de Gaulle. Le problème, c'est que le calendrier est très long, puisque tout ça, c'est après un hypothétique deuxième mandat, et donc, on ne sait pas trop. Il a un capital qu'il essaye de faire fructifier, mais on ne sait pas trop pourquoi.
Natacha ?
Encore une fois, Gilles a souligné l'espèce de, c'est-à-dire de malentendu qui préside à tout cela et qui est le fait que Édouard Philippe réussit à faire oublier qu'il incarne finalement ce que beaucoup de gens ont détesté chez Emmanuel Macron, c'est-à-dire cette forme de technocratie coupée des réalités, de la vie véritable des citoyens, une forme de technocratie sûre d'elle-même qui considère qu'on doit faire le bien des peuples malgré eux, et contre eux parfois.
C'est ce que vous avez ressenti, parce que quand on lit certaines pages du livre, et notamment les bonnes feuilles publiées dans Le Point, il y a aussi cette dimension dans le récit de ces années passées à Matignon, l'idée que gouverner, c'est avoir peur que Notre-Dame brûle puis s'effondre, avoir peur de devoir ordonner le feu contre une attaque par aéronef contre la France, avoir peur de manquer de médicaments, enfin il y a aussi une dimension malgré tout humaine.
Mais bien sûr, et d'ailleurs, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir. Édouard Philippe est indéniablement un homme non seulement cultivé, mais très fin, et qui du coup a bien compris à quel point le récit de l'humanité du gouvernant était aujourd'hui nécessaire. Et il le fait formidablement. Le problème n'est pas là, c'est que ses doutes tiennent à des moments qui sont des moments de crise, des moments cruciaux où l'on se retrouve face à l'événement, ce qui arrive et qui ne pouvait pas être prévu, comme l'incendie de Notre-Dame. En revanche, ce à quoi je fais allusion quand je parle de la technocratie sur d'elle-même, c'est surtout le reste. C'est sur les choix essentiels, c'est sur la direction à prendre. Quand il parle de la ligne claire, mais la ligne claire que lui-même dessine est celle de la continuation de tout ce qui a été fait depuis des années et une forme d'amplification. C'est-à-dire qu'on a l'impression que pour ce qui est de sa vision de la France et du monde, il n'y a strictement rien de neuf et rien qui vienne ébranler les certitudes qui étaient les siennes. Et c'est tout le paradoxe de cette humilité face à la lourde charge, tout en étant persuadé d'avoir eu raison sur des choses qui ont braqué les 80 km/h de ce point de vue-là, étaient éminemment symboliques dans le mépris qui a pu être ressenti par une part des Français et que Édouard Philippe n'a absolument pas vu. Il y a des récits de conseils des ministres qui sont absolument ravageurs sur la façon dont Édouard Philippe ne voyait pas à quel point il était coupé des Français. Je ne pense pas qu'il en ait conscience encore aujourd'hui.
Le duel continue.
France Inter. Le grand face-à-face. Le duel.
Gilles Finkelstein, vous vouliez parler de l'Europe et en l'occurrence du couple franco-allemand et vous avez été interpellé, et je le signale puisque c'est vous qui avez proposé ce thème, vous avez été interpellé par la manière dont le magazine Marianne, donc le magazine de Natacha, avait traité de cette question avec une couve qui formule les choses très simplement. Comment l'Allemagne tond la France et l'Europe ? Qu'est-ce qui vous a interpellé, Gilles, avant de laisser la parole à la Défense et donc à Natacha ?
Écoutez, que la nouvelle génération de responsables politiques allemands fasse davantage prévaloir ou essaye de faire davantage prévaloir les intérêts de l'Allemagne que les générations précédentes, je crois que c'est vrai. D'ailleurs, ce n'est pas seulement le cas des Allemands, c'est le cas de l'ensemble des responsables politiques dans le monde. Que les procédures de décision en Allemagne soient très différentes, et parfois nous les louons d'ailleurs, en tout cas plus lentes, plus complexes que chez nous, c'est vrai aussi. Qu'il y ait des décisions solitaires qui aient été prises par l'Allemagne ces dernières années, c'est vrai également, on l'a vu même il y a quelques jours avec la suspension de l'AstraZeneca, mais on l'avait vu sur des sujets qui étaient beaucoup plus lourds avec la reconnaissance de la Croatie ou avec l'ouverture des frontières lors de la crise des migrants, donc parfois pour le meilleur ou parfois pour le pire. Donc tout ça est vrai. Mais pour le reste, je dois dire que je suis assez largement en désaccord, ce qui ne va pas surprendre Natacha avec cette une. Je suis en désaccord avec les mots alors c'est le style de Marianne, le style particulier de Marianne, mais la référence à la grosse Bertha ou l'Allemagne qui tond la France, je suis pas sûr que c'est ce qui ait été de plus heureux, mais surtout avec le fond, c'est-à-dire l'idée que l'Allemagne défend ses intérêts et obtient systématiquement gain de cause. Je crois que ce n'est pas totalement juste. Je vais en prendre simplement une illustration.
Oui, un exemple.
Une seule illustration concrète sur les questions économiques. L'Allemagne ne voulait pas de l'euro. On a l'euro. L'Allemagne ne voulait pas que la Banque centrale abreuve de liquidités et rachète les dettes des États pendant la crise de 2008-2010. Ça a été fait. L'Allemagne ne voulait pas que la Grèce reste dans l'euro. On l'a obtenu. L'Allemagne, davantage encore, ne voulait pas qu'il y ait un endettement commun. Ça a été fait. Donc, pour beaucoup d'Allemands, en fait, la critique qui est faite est exactement la critique symétrique, c'est-à-dire que l'Europe est beaucoup trop une Europe française. Je ne suis pas sûr qu'il faille aller jusque-là, mais en tout cas, l'idée que l'Allemagne tond la France, je pense que ça va un peu trop loin.
Natacha, en quelques mots, avant d'accueillir notre invité, Agathe Cagé.
En quelques mots, premier. D'abord,
parce que le sujet est passionnant et pour le coup, on aura l'occasion d'y revenir.
Et le sujet est très important et nous ne le faisons pas par hasard maintenant. C'est-à-dire que, bien sûr que le dossier rappelle tous les points qui ont été des points problématiques. Et Gilles, vous dites que l'Allemagne ne voulait pas de l'euro, mais l'Allemagne a négocié en effet de façon à ce que finalement l'euro soit une forme de Deutschmark. C'était un donnant-donnant dans lequel sans doute Mitterrand a commis une erreur historique majeure qui était d'accepter, pour convaincre l'Allemagne d'accepter l'euro, d'accepter que cet euro ne soit qu'une traduction du Deutschmark. Nous en parlons d'ailleurs dans le dossier. Mais pourquoi nous le faisons maintenant ? Parce qu'actuellement, il est en train de se passer des négociations, par exemple, sur la défense européenne, sur l'armement européen, l'avion du futur, les chars du futur, dans lesquels, En fait, nous voyons une lutte industrielle farouche entre la France et l'Allemagne. Et pour le dire de façon un petit peu résumée, il y avait différents implicites dans la construction européenne depuis des décennies. Premier implicite, l'Allemagne avait une forte puissance industrielle, la France avait une puissance agricole et quelques industries de pointe dans des domaines précis, l'armement, l'aéronautique, également le nucléaire. Or, c'est cet équilibre-là qui est en train de se rompre. Et évidemment, le titre est provoquant.
Ne refaisons pas toute l'histoire. Oui.
Non, je ne refais pas l'histoire, mais justement, c'est en train de se jouer. C'est-à-dire que là, actuellement, dans les négociations sur l'avion du futur, eh bien, normalement, dans ce genre de négociations, quand on se met à deux, celui qui a la meilleure technologie dans un domaine est le leader et l'autre est leader dans le domaine où il prévaut. Ce n'est pas ce qui est en train de se passer, au point que l'entreprise Dassault a alerté sur le fait que petit à petit, le déséquilibre était en train de se créer et que la France, on va le dire très clairement, en fait, la France risque de perdre le leadership en Europe sur ces sujets-là.
Et donc le débat est lancé, il est passionnant.
J'ajoute juste un truc, sur l'agriculture, même chose, sur le projet de démantèlement d'EDF qui est essentiel, le projet Hercule, c'est la Commission qui réclame ce démantèlement, évidemment poussé par l'Allemagne. Sur le nucléaire, c'est la même chose.
Natacha.
Voilà. Ce sont des sujets dont personne ne parle. C'est essentiel.
Et c'est la raison pour laquelle je tenais à ce qu'on puisse en parler, notamment aujourd'hui, même rapidement. Et donc, on reprendra évidemment ce débat entre Gilles et vous.